10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Épicer Tout, l'émission qui chaque mois parle des épilepsies. Très heureux de vous accueillir pour cette émission en direct. À mes côtés, Céline. Bonjour Céline.
Salut Thomas.
Comment ça va?
Ça va.
Céline, des équipes relais handicap rare.
Oui, alors on les présente à chaque émission rapidement, les équipes relais handicap rare. On accompagne, elles sont présentes dans toute la France. On accompagne des personnes qui sont atteintes de handicap rare, enfin atteintes, on ne dit pas ça, qui sont en situation de handicap rare et dont les personnes avec épilepsie rare et sévère font partie. Donc on accompagne pas mal de personnes avec épilepsie. Et peut-être une petite précision, cette émission de radio, elle est effectivement portée par l'équipe relais handicap rare, mais surtout réalisée par des membres de la communauté de pratique épilepsie et handicap. Et on peut citer à nouveau, on ne fait pas à chaque émission, tous nos partenaires, le CHRU de Nancy et les équipes de neuropédiatrie et de neurologie, Épilepsie France, dont on a une représentante aujourd'hui avec
même,
nous.
Voilà, même deux, je dirais.
Même deux représentants, puisqu'il y a une représentante.
Voilà.
Et deux, oui, tout à fait.
Exactement.
Il y a Anaïs qui est au téléphone avec nous.
Et on va vous les présenter dans quelques secondes, nos invités.
Ouais. La Fédération EFAP, et puis Corentin et Ségolène, qui travaillent aussi beaucoup à la réalisation de cette émission de radio, et l'association Accueil Épilepsie Grand Est, avec Marie-Agnès Basselin.
Et on embrasse tout ce petit monde qui nous aide et qui fait que cette émission a lieu chaque mois. Aujourd'hui, Céline, on va parler d'un sujet important qui est l'annonce du diagnostic d'épilepsie. Pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir à nos côtés Justine Miguel. Je ne me trompe pas dans la façon de prononcer votre nom.
Non, c'est parfait.
Bienvenue Justine, vous êtes neuropédiatre, si je ne dis pas de bêtises, au CHR d'Épinal et au COCE, qui est le Centre d'Observation et de Cure pour Enfants Épileptiques de l'EHS Lorraine.
Exactement.
Avec vous, on va parler un petit peu de l'approche médicale du diagnostic et de la façon de l'annoncer. Également avec nous, ici en studio, Tiffaine Ligouti. On va allumer votre micro, je pense qu'il n'est pas. Voilà, vous êtes pas. Ça va être beaucoup mieux pour vous entendre. Vous êtes déléguée départementale Alsace et Lorraine et vice-présidente nationale pour Épilepsie France. Et vous-même, vous souffrez d'une épilepsie qui est stabilisée aujourd'hui. Vous nous raconterez votre parcours tout à l'heure. Avec plaisir. Et au téléphone avec nous, Anaïs Rémy-Drouet. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Vous êtes déléguée départementale Marne d'Épilepsie France. Et vous, vous êtes maman d'une enfant qui souffre d'épilepsie, c'est bien ça?
C'est ça, tout à fait.
Bon, et vous nous raconterez aussi comment on vit quand on est parent et qu'on apprend la maladie de son enfant. C'est donc le sujet du jour. Comme d'habitude, Céline, on est allé interroger des gens dans la rue. Vous leur avez posé des questions. Quelle est la première question qu'on a posée aux gens dans la rue?
Alors, une petite question un petit peu statistique, pas évidente d'ailleurs. Selon vous, combien d'annonces de diagnostic d'épilepsie sont faites en France chaque année?
Approximativement, je ne saurais pas dire, une trentaine.
Je pense que beaucoup, une centaine.
J'aurais dit une centaine également, à peu près.
Je dirais au moins bien 30% quand même, de la population entière, ouais, bien sûr.
Je ne pourrais pas vous donner un nom, mais je sais qu'il y en a beaucoup, de plus en plus même.
Je dirais plus de 10 000.
Entre 5 et 10 000.
200 000.
1000, entre 1000 et 1500 à peu près.
Je dirais 30 000.
Je ne me hasarderais pas à donner de réponse.
50 000.
Alors c'est varié, ça va de ceux qui pensent qu'on a une trentaine par an à ceux qui pensent qu'on va jusqu'à 30% de la population. On a entendu 200 000, on entend beaucoup de chiffres. Réaction, peut-être je me tourne vers vous docteur, qu'est-ce qu'il faut considérer? On sait que l'épilepsie c'est la maladie neurologique la plus répandue, c'est ça?
La troisième si on considère toutes les maladies neurologiques. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui sous-estiment largement et d'autres qui surestiment. Mais finalement, il y en a quand même qui sont assez proches de la réalité parce qu'on est autour de 40 000 nouveaux cas par an en France, donc 40 000 annonces diagnostiques par an. Et je crois qu'il y a une personne qui dit 30 000, une personne qui dit 50 000. Donc il y a quand même des gens qui
sont tout proches,
qui ont très bien jaugé.
Voilà. Ça reste un chiffre important quand même.
Ah bah, oui.
C'est vrai, quand on entend au départ les 30, 100, je ne sais pas si ça vous fait réagir, peut-être Tiffaine, ces chiffres-là qui sont donnés, on a l'impression que c'est très limité, que c'est très très rare l'épilepsie dans la bouche de certaines personnes.
Bah oui, c'est ce qu'on remarque aussi dans la société, c'est que l'épilepsie reste est méconnue en fait par certains, par beaucoup de personnes dans la société, donc ça montre bien finalement que c'est pas encore assez parlé l'épilepsie et finalement 40 000 nouveaux cas, oui, c'est énorme. Et et l'épilepsie est bien la troisième maladie neurologique en France, derrière la migraine et les démences en général. Mmh. Donc, Voilà.
Donc c'est effectivement une maladie qui touche beaucoup, beaucoup de gens, on l'entend. Il y a quelqu'un qui dit dans le micro-trottoir de plus en plus, est-ce que c'est quelque chose qui est en augmentation, le diagnostic d'épilepsie, ou bien est-ce que globalement c'est plutôt stable ?
La communication peut-être autour de la maladie, plus que l'incidence en fait en elle-même. On en parle pas assez effectivement, mais on en parle quand même de plus en plus et on démystifie aussi beaucoup de choses et ça peut donner l'impression que l'incidence est en augmentation, mais c'est relativement stable.
C'est relativement stable, ouais. Donc autour, on le redit, de 40 000 nouveaux cas par an. Deuxième question, Céline, que vous êtes allée poser dans la rue aux auditeurs.
Alors, quelle pourrait être pour vous une annonce de diagnostic qui soit bien faite, au sens de qu'est-ce que vous attendez du médecin à ce moment-là ?
Large question, on écoute les réponses maintenant.
Une annonce bien faite est suivie d'un traitement adéquat. Un accompagnement bienveillant et le professionnalisme par l'accompagnement vers le traitement.
Qu'ils soient informés sur sa maladie.
La pédagogie déjà. Et puis en fonction de la personne qui est en face, ça dépend de la sensibilité de la famille. De toute façon, quels que soient les mots que va dire le médecin, ça sera un choc quand même.
Je pense qu'il doit prendre le temps d'avoir un rendez-vous et de ne pas lui transmettre par courrier ou quoi que ce soit, ou par mail. Bien prendre le temps d'être à maintenir cette proximité justement avec son patient.
Pour toute pathologie grave, sérieuse, chronique, avec des retentissements importants, mais un minimum d'empathie, d'explication, et simplement un élément important, considérer que la personne ne va pas tout entendre la première fois, et donc proposer une deuxième consultation.
Comment les traiter si jamais on avait quelqu'un, au cas où, en cas d'urgence ?
Des explications sur la maladie, sur les conséquences, qu'est-ce que ça engendre aussi au niveau de la famille, parce que j'imagine qu'il y a des conséquences sur toute une famille quand un membre est épileptique. Peut-être les remèdes, les traitements.
Qui nous guide pour un traitement, ça pourrait être pas mal.
D'être extrêmement rassurant en parlant immédiatement de la prise de médicaments, de la façon de la vie la plus normale possible qu'on peut avoir, à condition de prendre effectivement les médicaments.
Qu'il ait du doigté, parce que quand j'étais jeune, c'était très mal vu ça. C'était une maladie honteuse. Alors que maintenant, avec les traitements, c'est plus du tout le cas.
De l'empathie, de la bienveillance, et de ne pas faire ça en 5 minutes parce qu'il a un rendez-vous après. Et de prendre le temps d'expliquer à l'accompagnant, s'il y a un accompagnant, et à la personne concernée elle-même.
Qu'il soit clair.
Qu'on me dise franchement ce que j'ai. Qu'on ne me cache rien. Je préfère affronter la réalité qu'on me raconte n'importe quoi.
Ouais, qu'il y ait des choses faites, qu'on puisse au moins diminuer tout ça, quoi.
Ouais,
s'estomper la maladie, parce que je sais que de toute façon, à faire disparaître, on ne pourra pas.
Il faut surtout dédramatiser, parce qu'il faut arrêter d'associer ça à la folie. Parce qu'il y a plusieurs années, épilepsie était égale à la folie, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc il faut dédramatiser, il faut surtout donner des bonnes infos pour que les gens arrêtent d'avoir peur et dire qu'il y a des traitements très efficaces et on peut faire une crise et ne plus jamais en refaire aussi.
Il y a beaucoup de choses qui ressortent de ce micro-trottoir, mais en tout cas, la notion d'information, elle est importante, elle semble importante. Vos réactions sur ce micro-trottoir, peut-être que je peux m'adresser à Anaïs, vous venez d'entendre ce micro-trottoir. Anaïs, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous en retenez ?
Je pense que y a des mots qui sont ressortis, l'empathie, la bienveillance, la pédagogie, et ça, je pense que tout futur potentiel patient attend la même chose, quelle que soit la pathologie de ce médecin. C'est aussi de la franchise, hein, je retiens ce mot aussi, parce que oui, il faut mettre les mots, ne pas cacher voilà, la gravité s'il y en a une de la pathologie, mais c'est aussi prendre le temps, et ça, la proximité avec le médecin, l'alliance thérapeutique qui va se créer, elle va se jouer là. C'est ce premier rendez-vous qui va poser les bases, puis un second. Alors voilà, en général, il faut quand même au moins un deuxième rendez-vous pour vraiment asseoir ce qu'on comprend de la maladie, et en plus de notre maladie, parce que chaque patient a une forme différente. Donc ce qu'on va pouvoir lire sur Internet ou ce qu'on va pouvoir lire dans des documents va pas forcément s'adapter à nous. Donc voilà, moi je trouve que c'est... Ce que j'ai entendu, voilà, se rapproche de ce que les patients d'épilepsie attendent aussi de leur diagnostic.
On peut en reparler peut-être de cette histoire du deuxième rendez-vous. On entend quelqu'un qui dit la personne ne va pas tout entendre la première fois. Docteur, vous en pensez quoi ?
Ah ben c'est clairement la réalité. On sait, je pense que ça ressort très bien. Quelqu'un a cité le mot choc. Enfin, toute annonce d'une maladie chronique, il faut qu'on s'imagine bien que ça représente un choc pour la personne et que la personne en état de choc, eh ben forcément, ne va pas être en mesure de tout intégrer, du nombre d'informations en plus qu'on va lui transmettre lors de cette annonce diagnostique, d'où l'importance de la notion de temporalité et d'un rendez-vous rapproché pour pouvoir après reposer les choses après cette phase initiale de choc. Et en plus, il y a vraiment, on va le revoir, énormément de choses à dire lors de cette annonce diagnostique et c'est impossible que le patient ressorte en ayant tout retenu, intégré, ouais. Tout retenu. Tout compris, quoi.
Il y a une autre notion, je me tourne vers vous, Tiphaine. On a entendu parler de l'accompagnement, de aussi informer la personne qui accompagne au rendez-vous sur les conséquences que ça a dans la vie, et aussi dans la vie de famille, et puis aussi sur la façon dont on prend en charge les choses. Vous en avez pensé quoi ? Je sais que vous nous en avez parlé tout à l'heure en préparant l'émission, de l'importance aussi de pouvoir associer, mais de façon un peu travailler, j'allais dire, peut-être les personnes qui vous accompagnent dans la vie.
Bah, je pense que c'est important pour une personne épileptique. Alors, les enfants, logiquement, ils seront avec leurs parents ou représentants légaux. Mais c'est vrai qu'un adulte, je le conseille vraiment de venir accompagner parce que ça, c'est un choc. On annonce quand même une rupture, on va dire, d'une vie presque normale. Il va falloir faire, il y a les étapes de deuil à faire dans cette annonce. Donc, c'est sûr que c'est un peu un coup de massue, un choc. Donc, il faut l'accepter. Et puis, être accompagné, ça permet d'avoir deux personnes qui entendent deux choses peut-être différentes, qu'ils comprennent différemment. Et c'est surtout, quand on sort de la consultation, on n'est pas seul. Ouais. La personne va pouvoir nous raccompagner chez soi. Enfin, on va pouvoir verbaliser, parler, dédramatiser et puis échanger ce que chacun a compris parce qu'on comprend différemment les choses.
Vous nous raconterez votre parcours tout à l'heure. On le comprendra mieux au travers de ce parcours. Là, sauf si Céline, tu voulais rajouter quelque chose sur ce qu'on a entendu. Sinon, je te propose qu'on passe à la troisième question.
On peut.
Qui était,
du coup, quelles sont les informations que vous aimeriez recevoir lors de ce temps d'annonce ?
Sur l'évolution de la maladie, ses différentes manifestations, et sur la longueur du suivi, s'il est à moyen terme ou à long terme, avis sur le traitement.
Quels sont les dispositifs mis en place, que ce soit par les organismes publics ou ce genre de choses, pour nous aider au maximum à gérer et à en apprendre plus.
Comment ça arrive, d'où ça provient, les symptômes qu'ils peuvent avoir, la fréquence, pendant la crise, comment réagir surtout. Et je pense aussi que c'est important de sensibiliser les proches pour avoir une meilleure vue de la maladie et des conséquences de la maladie, tout simplement.
Peut-être l'entourage, peut-être des informations sur comment se comporter avec quelqu'un d'épileptique.
Des informations de sécurité au cas où ça survient, encore entre guillemets.
Quels médicaments, quel impact des médicaments sur mon bien-être, si j'en ai marre, si je ne les prends pas pendant... parce que j'en ai, quel impact. Et puis ma vie quotidienne, comment est-elle impactée par cette maladie. Et puis, comment réagit l'entourage. Est-ce que je vais le dire à mon entourage? Moi, je suis épileptique.
Qu'on puisse faire quelque chose de positif et pas rester dans le flou, quoi. Qu'on puisse trouver des solutions adaptées à ma maladie, quoi.
Qu'on me donne un mode de vie à suivre, que je trouve un soignant qui s'occupe bien de moi.
Ouais, l'impact de ce que ça peut faire sur nous, sur le corps, sur tout ça. Je dirais ça.
Ce qui me sera autorisé, ce qui me sera interdit, ce que je pourrais faire ou ne pas faire parce que ça peut survenir un peu n'importe quand. Quels sont les traitements efficaces qui existent, les effets secondaires des traitements et s'il y a des accompagnements, des réunions, des lieux de rencontre où on peut parler, etc. Et savoir qu'on peut avoir accès au neurologue assez facilement. On peut toujours rêver.
Savoir comment gérer une crise d'épilepsie, ça pourrait être pas mal. Et savoir qu'est-ce qui peut nous aider à les reconnaître.
Sensibiliser aussi les familles qui vivent avec des gens qui sont atteints d'épilepsie pour les rassurer et surtout avoir les bons gestes pour quand une crise se déclenche, savoir retenir la personne pour pas qu'elle tombe, pour pas qu'elle se cogne, qu'elle se blesse.
De la gravité déjà, comment ça soigne.
Donner des informations sur l'impact que ça va avoir au quotidien, court, moyen et long terme peut-être. Voilà.
L'impact que ça va avoir au quotidien, c'est le dernier mot qu'on entend. Anaïs Rémy-Drouet, vous êtes maman, hein, vous, d'une petite fille, c'est ça, qui souffre d'épilepsie. Est-ce que c'est ça que vous attendez de ce rendez-vous? Qu'on vous dise quel impact ça va avoir sur votre quotidien?
Oui, parce que finalement, l'onde de choc du mot épilepsie, voilà, quand on est parent et qu'on, déjà, on a vu son enfant dans un état grave, le mot est mis, bon... mais finalement, dans le bureau du médecin, on se sent, et puis surtout dans l'hôpital, on se sent entouré. On sait que si ça revient, il y a quelqu'un qui peut intervenir. Et puis il y a le moment où on sort de l'hôpital et où on reprend une vie, on va dire, ordinaire. Et c'est là où, en fait, ce premier rendez-vous avec le diagnostic, il est important qu'il y ait les choses sur... À quoi est-ce que je vais devoir faire attention? Ça peut être, pour éviter tout accident domestique, eh ben, attention, les chutes, les bains pour les enfants, il faut faire très attention pour le risque de noyade. Il y a des choses comme ça, c'est pragmatique. Mais aussi, qu'est-ce que je vais devoir regarder chez mon enfant? Enfin, moi, je parle, voilà, en tant que maman, c'était tenir un calendrier des crises avec ce qui se passe, les symptômes, tout noter. Voilà, ça va être des gestes du quotidien. Donc, en fait, c'est plus une vie ordinaire, ça devient une vie modifiée par la maladie. Mais c'est ça qui est important, c'est de se dire, voilà, avoir un petit peu une liste des choses à faire. Et je reviens sur ce qui avait été dit avant, sur le fait d'être accompagné. Alors forcément, nous, c'était notre enfant, donc on était le père et la mère. Mais parfois, il y a des parents qui sont seuls, des familles monoparentales. Et être accompagné, avoir deux cerveaux qui réfléchissent à un même sujet choquant, impactant dans la vie, ça sert aussi à se rappeler. Le médecin nous avait dit rappelle-toi. Et ça aide, voilà. Et c'est une nouvelle vie qui commence, ça donc, c'est sûr.
Là, effectivement, hein, vous illustrez bien ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir sur l'impact sur le quotidien et l'accompagnement. On a beaucoup entendu ça dans la bouche des gens, globalement, c'est que on attend aussi du premier rendez-vous, on attend des informations sur qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire, comment on doit protéger, pas protéger. Qui de vous, Justine ou Tiffaine, veut peut-être réagir sur ce qu'on vient d'entendre?
Je crois qu'il y a beaucoup de réponses très pertinentes, Justine. Et qu'on voit encore bien... tant l'importance de la forme de l'accompagnement, etc., que du contenu qui est extrêmement dense et qu'on se doit de fournir lors de cette consultation d'annonce.
Eh ben, on va en parler dans un instant. Hein. C'est le sujet du jour. On est ensemble jusqu'à 11h. Je vous propose, avant de poursuivre nos échanges sur l'annonce du diagnostic en épilepsie, qu'on écoute un titre qui s'appelle « La vie d'abord d'Épilepsie France ». Qui est-ce qui a choisi ce titre? Peut-être c'est vous, du coup.
Bah, oui, c'est un clip, une chanson que Épilepsie France a réalisé il y a maintenant 2 ans. Parce que quand on parle d'épilepsie et que vous cherchez une chanson ou un film sur l'épilepsie, bah, il n'y a rien de joyeux. Et malgré tout, l'épilepsie, comme le nom l'indique de la chanson et le slogan de l'association, c'est la vie d'abord. Et on voulait quelque chose d'enjoué, de rythmé et qui donne espoir, que ce soit pour les aidants, les patients, c'est important. Malgré l'épilepsie, il y a une belle vie.
Eh ben, on écoute tout de suite La vie d'abord sur RCN.
Bonjour.
Bonsoir.
Au vu de ce que je vous dis et de ce que je ne vous dis pas, je peux affirmer ici, en disant à la fois son contraire et l'opposé, mais avec circonspection, en fonction des fake news que je n'ai pas vues car je les vois tout le temps, je peux affirmer ici, malgré le fait que ce soit le contraire, que l'épilepsie vous rend zinzin, maboule, sinox cintré, fondu, siphonné, brin de zinc, taré et dingo. Je vous écoute.
Toi qui me crois toc toc et qui flippe, écoute, je décrypte en musique. Comment t'expliquer si vite, c'est pas le trip d'être épileptique. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort, moi je suis comme toi, j'ai bien une âme et un cœur. Je suis cool et j'aime le sport. Pour moi, tu sais, quand ça roule, je suis le roi des déconneurs. Je blague à toute heure, même si j'ai peur de la foule. Je suis plein de bonne humeur, mais tu vois, ça me fout les boules. Avant, tu sais, j'en savais rien. Je me suis levé de bon matin, comme si de rien, fier, beau et fort. Je garde la même devise, pour moi c'est la vie d'abord. Ce qui m'en fout,
Ce qui me fait mal, c'est quand on se fout de moi, qu'on me croit malade mental. J'ai pris le pli et j'aimerais bien aujourd'hui, plutôt qu'à mon psy, te parler d'épilepsie. C'est dans ma carte mentale, alors que tout est normal. D'un coup va savoir pourquoi j'ai les neurones qui s'emballent. Je dessine cette image, ton cerveau fait des nuages. Et contrairement à toi, les miens éclatent en orage. Souvent tu sais, tout va très bien. Je suis pas non plus un bon à rien. J'ai vu le doc, celui qui prescrit mes médocs. Avec le temps, c'est presque devenu mon pote. Mes promenades sont si proches des étoiles. Je prends le jus dans le citron, mais y a pas de pépins qui se baladent. J'aime la vie, la mienne, je l'ai pas choisie. Puis t'es pas la drix qui m'arrive, t'arrive aussi. Les petits, les petits, ça frappe n'importe quand, les grands aussi les petits. Ma palabra, ma colère, ma pala, j'en ai marre de me taire. Et si mon corps a quelques sautes d'humeur, en alimentant ma honte, vous allez briser mon cœur. Avant tu sais, tout allait bien, puis c'est venu comme ça, l'air de rien. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort, moi je suis comme toi, pour moi c'est la vie d'abord.
Je préfère plutôt dire que je suis incroyable, tordant, homérique, excentrique, éperdu, extravagant, original, louf, décalé, fantasque, fantastique, vertigineux.
J'ai compris. J'ai fait de la merde, quoi.
Moi, je suis comme toi, pour moi, c'est la vie d'abord.
RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
En direct sur RCN, et ce matin nous parlons de l'annonce du diagnostic. À mes côtés, Justine Miguel, vous êtes neuropédiatre au CHR, Centre Hospitalier Régional d'Épinal, et vous êtes aussi au COCE, le Centre d'Observation et de Cure pour Enfants Épileptiques à l'OHS Lorraine. Voilà, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Je me tourne vers vous pour reprendre cet entretien. Parce que on parle d'annonce de diagnostic, mais d'abord, le diagnostic, il se fait quand et comment en épilepsie?
Effectivement, je pense que déjà, on va reposer les bases. Je ne reviens pas sur la définition de l'épilepsie. Mmh. Je pense que nos auditeurs, maladie neurologique chronique caractérisée par la survenue de crises d'épilepsie. Et donc, on va être amené à poser ce diagnostic quand le patient aura fait soit deux crises qu'on dit non provoquées et espacées de plus de 24 heures, soit on peut aussi se retrouver dans la situation d'une première crise avec un diagnostic syndromique aidé par l'EEG. Et donc, dans ce cas-là, un patient qui aura fait une seule crise, un EEG qui va nous apporter des arguments pour poser un diagnostic.
On peut expliquer ce que c'est l'EEG pour nos auditeurs qui ne savent pas.
Électroencéphalogramme, voilà. Les petites électrodes qu'on met partout sur le scalp pour enregistrer tout simplement l'activité électrique du cerveau. Oui. Et dans le cas d'un patient épileptique, on va pouvoir enregistrer certaines choses qui peuvent nous permettre de poser un diagnostic. Et du coup, je pense que ça peut nous amener à qui va faire l'annonce diagnostique. Ça va être le médecin neurologue, le neuropédiatre ou un médecin formé en épileptologie qui va parfois intervenir en seconde ligne après le médecin urgentiste ou le médecin généraliste qui aura déjà plus ou moins préparé le terrain avant d'adresser au neurologue ou au neuropédiatre.
Mais parce que souvent, les personnes qu'on va diagnostiquer épileptiques vont passer par la case d'urgence en premier lieu, et vous êtes ensuite renvoyé, comment ça se passe?
En tout cas, on peut être dans des situations très variées, soit un patient qui aura remarqué des choses qu'il n'aura pas forcément consulté quand on n'est pas dans le cadre de la grande crise généralisée tonico-clonique.
Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a autant de crises d'épilepsie que de personnes qui souffrent d'épilepsie, et qu'il y a des crises qui sont très peu visibles et d'autres beaucoup plus.
Exactement, et du coup on va se retrouver dans des situations très variées, de l'annonce d'une épilepsie absence où ce sera plutôt un enfant qui aura fait des absence au quotidien, on n'est pas dans une temporalité d'urgence, au patient qui va avoir fait sa première crise généralisée tonico-clonique, où là, bah, déjà, en termes d'unité de lieu même, on n'est pas du tout dans la même situation, effectivement.
Alors, je vous entends, vous dites, nous, quand on a effectivement diagnostiqué, arrive le moment de la question de l'annonce. Je vais être un peu brutal, mais on l'a entendu dans le micro-trottoir, il y a quelqu'un qui dit, faut plus que ça se fasse par téléphone ou par mail. Concrètement, ça veut dire que ça se fait, ça?
J'espère que ça ne se fait plus. Je crois que Tiphaine l'a bien dit tout à l'heure hors micro que on a quand même traversé toute cette période de Covid où on était moins dans la relation en face à face et où il y a peut-être eu, parce qu'on était obligé de le faire, des choses via la visio, etc. Après, je crois que maintenant tout le corps médical, paramédical d'ailleurs, a conscience du fait que une annonce diagnostique, ça va être la base de notre alliance thérapeutique avec le patient. C'est vraiment le moment où on va poser les fondations d'une relation de confiance. Nous, notre enjeu, c'est d'avoir une relation médecin-patient saine, c'est l'acceptation de la maladie. Le patient, suite à cette annonce diagnostique, il doit sortir en sécurité, en ayant compris quand même un certain nombre de règles, en ayant compris son traitement, etc. Et surtout, il ne doit pas être perdu de vue, donc on ne doit pas non plus l'avoir complètement perdu parce qu'on a fait les choses de manière trop brutale ou en utilisant des mots qu'il n'a pas compris. Il faut... voilà. On pose les bases de l'alliance thérapeutique et l'alliance thérapeutique, ça va être après sur le long terme. Et donc, tout le contexte de l'annonce, les mots, les lieux, on a entendu la notion d'empathie, d'écoute, etc. Tout ça, c'est fondamental et je ne pense pas que ça puisse se faire du coup par mail ou par téléphone, hein, si on considère tous ces paramètres.
Cette notion d'alliance thérapeutique, pour bien comprendre, ça veut dire qu'un patient qui va être diagnostiqué épileptique, vous allez le revoir de façon régulière, du coup. En tout cas, c'est l'objectif.
Ah bah oui, c'est l'objectif. Il va falloir mettre en place une prise en charge au long cours, au très long cours. Donc, il faut que le patient... Il faut avoir posé les bases d'une relation de confiance pour que le patient revienne en rendez-vous, prenne son traitement et qu'il soit en sécurité, en fait.
Alors, je rappelle, hein, vous êtes neuropédiatre, Justine. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est OK, on a bien compris qu'on avait un diagnostic, mais comment on l'annonce à son patient ? Est-ce que d'abord, vous êtes formée pour ça ?
Alors, c'est une grande question. Déjà, il y a quand même un minimum de cadre réglementaire avec les lois de 2002, 2022, cette notion d'information au patient, de patient acteur de plus en plus de sa prise en charge, le fait qu'on doit au patient une information qui est claire, loyale et appropriée, ça c'est le code de santé publique. Il y a quand même des recommandations de bonnes pratiques sur l'épilepsie qui datent de 2020, qui vont nous indiquer plus finalement le contenu que vraiment la façon dont on doit annoncer les choses. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on... Voilà, il y a et cette partie du contenu qui est énorme, et peut-être que c'est intéressant de reprendre un peu item par item ce qu'on va dire. Et après, le comment on l'annonce, où il y a quand même une grande partie d'humain là-dedans,
de psychologie,
auquel on est plus ou moins formé. C'est une réalité où on se forme aussi petit à petit au cours de nos stages quand on est étudiant en médecine, puis interne, etc. Et en fonction, qui évolue même en fonction de notre carrière, des situations auxquelles on a été confronté, des patients qu'on a parfois rencontrés et qui nous font aussi grandir dans notre façon d'exercer au quotidien. Donc, il y a...
Oui, parce que ce qu'il faut bien prendre en compte, on le sait, mais Anaïs Remy-Drouet nous le disait tout à l'heure, ça a un impact réel, il y a un choc quand on apprend qu'on a... Parce que c'est une maladie chronique, c'est une maladie, on va vivre avec... globalement toute sa vie. Alors il y a des cas où on sait qu'on peut en guérir, mais globalement, enfin, on va quand même vivre avec cette maladie avec quoi.
Je pense que c'est là tout l'enjeu, c'est que pour nous docteur, l'annonce diagnostique, elle fait partie en quelque sorte de notre quotidien, c'est notre métier, c'est un truc qu'on fait régulièrement. Quand on se place du côté du patient, finalement, on va vraiment avoir cette notion de choc. C'est un moment qui est finalement bref, mais le patient va se souvenir des circonstances de cette annonce. Il ne se souviendra peut-être pas de tout ce qu'on a dit, de tous les mots, mais des circonstances de l'annonce, il va s'en souvenir toute sa vie. Ça va vraiment marquer cette rupture dans sa vie du avant que tout ça commence. Et après, il ressort de votre bureau ou de n'importe de l'hôpital, etc., avec cette identité de « je suis malade ». Donc c'est un moment qui est assez bref, mais qui est très 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 important dans
la
vie du patient.
En fait, c'est une nouvelle vie qui démarre concrètement. Exactement. À partir de ce moment-là. On a un petit peu abordé l'aspect psychologique, mais revenons à l'aspect informatif. On l'a bien entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir. Les gens sont demandeurs d'informations, et puis après on demandera à nos témoins de nous expliquer comment ils l'ont vécu, mais on entend, hein, y a besoin de beaucoup d'informations.
Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à donner au cours de cette consultation d'annonce. Des informations qui vont quand même parfois varier parce qu'on peut être dans des situations très différentes d'épilepsie qu'on sait de pronostics plutôt favorables à des épilepsies qu'on sait parfois d'emblée de pronostics moins favorables, parfois avec des enjeux neurodéveloppementaux, parfois dans le cadre de maladies neurodégénératives. Un cadre différent en fonction de si on est chez l'enfant ou si on est chez un adulte qui a déjà un métier et toutes les répercussions dans le quotidien. Et donc, c'est important de bien comprendre dans quel cadre on se situe pour après pouvoir apporter tout le contenu qu'on a à apporter, qui va déjà de généralité sur l'épilepsie. On est parfois face à des patients qui ne savent pas ce que c'est l'épilepsie, face à des parents qui ne savaient pas qu'on pouvait être épileptique quand on est enfant. Donc, on doit déjà poser ses bases. Très rapidement, du coup, on va embrayer sur la thérapeutique, qu'est-ce qu'on va faire? Le patient, il va souvent sortir avec un médicament. Il faudra expliquer comment il faut le prendre, qu'est-ce qu'on fait s'il y a du décalage horaire, si l'enfant vomit et qu'il faut leur donner, quels sont les effets indésirables, quand est-ce que le patient doit revenir, recontacter, quelle est l'efficacité attendue de ce médicament, comment on fait quand le patient refait une crise. Il y a aussi quand même tout cet aspect, la gestion de quand ça recommence, comment on va reconnaître, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est les parents, l'accompagnant quand il est présent, ou le patient lui-même quand c'est un patient qui va sentir venir ses crises. Et puis rapidement, il y a aussi toutes les informations sur la vie quotidienne qu'on doit apporter. On va mettre un médicament, les questions de contraception et de grossesse, c'est quelque chose qu'on doit aborder évidemment. Le patient, il est peut-être venu en voiture en conduisant lui-même. Oui. Il y a cette législation permis de conduire, on doit quand même informer le patient.
On précise, ça veut dire que normalement un patient épileptique il peut plus conduire, c'est ça l'idée?
Quand on fait le diagnostic, non, il peut plus conduire. Et ensuite il y a toute une législation avec des lois qui nous disent au bout de combien de temps on a le droit de reconduire, quand on n'a pas fait de crise, quand on prend bien son traitement, quand on est bien suivi. Donc tout ça, on ne va pas forcément aller aussi loin dans l'explication, dans l'annonce diagnostique, mais on doit informer le patient de la législation concernant le permis de conduire. On doit l'informer de toutes les précautions à prendre dans la vie quotidienne. Un patient qui risque de refaire une crise, il y a le risque de traumatisme crânien. Donc quelles situations sont à risque pour lui, les activités en hauteur, etc. Le risque de noyade, la maman qui a parlé tout à l'heure nous l'a bien dit. La piscine, la baignade, le bain. Donc ça fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. On doit aborder aussi tout l'après, les difficultés psychologiques, les comorbidités et rapidement aller vers les soutiens que le patient peut trouver pour traverser aussi cette épreuve. Je ne l'ai pas dit, il y a beaucoup, c'est vraiment très très dense. Chez l'enfant, l'impact sur la scolarité, chez l'adulte, toutes les répercussions sur le milieu du travail. Je ne pense pas avoir fait le tour parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais en tout cas, on voit bien la densité d'informations qu'il y a à donner, tant sur des choses, des informations générales, consignes de vie, hygiène de vie, que des choses très pointues sur le traitement, le pronostic, qui est quand même un élément central de l'annonce diagnostique et qui va moduler tout ce qu'on va dire et jusqu'où on va aller dans les informations qu'on délivre lors du premier entretien.
Vous pouvez nous préciser le pronostic justement par rapport au diagnostic, c'est quoi ce pronostic?
Le pronostic, c'est si on veut être très simple, la notion de gravité, la projection qu'on peut attendre de la maladie en termes de durée d'évolution, de gravité, de sensibilité aux médicaments, de comorbidité, etc.
C'est énormément de choses à apporter. On l'entendait tout à l'heure, la question du 1-2 rendez-vous, ça, tout ce que vous venez de nous dire, vous le faites en un seul rendez-vous?
Il y a beaucoup de choses qu'on doit, de façon légale, dire en un seul rendez-vous, parce que finalement, on ne peut pas, au premier rendez-vous, dire « je lui parlerai du permis la prochaine fois ». On est obligé. Après, on sait que le patient ne va pas tout entendre et on doit revoir le patient une fois qu'il aura un petit peu atterri de toutes les informations, qu'il aura traversé ces phases de déni, puis de révolte, et puis qu'il se sera posé un petit peu pour appréhender les choses. Donc c'est sûr que, oui, la première consultation, elle est très dense, elle doit durer longtemps et ça aussi une des limites parfois de notre système de santé en termes de moyens parce qu'on a tellement de choses à dire qu'on doit avoir une durée suffisante. On ne doit pas être dérangé par le téléphone d'astreinte toutes les 5 minutes. On doit faire attention au lieu dans lequel on annonce, qu'il n'y ait pas des va-et-vient, etc. Bien sûr, oui. Et même si on a fait tout ça, il y a tellement d'informations que oui, il y aura forcément un temps rapproché ensuite pour pouvoir échanger de tout ça.
De façon plus pratique ou pratique, vous avez vraiment le temps de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, ça ne court pas les rues, les rendez-vous avec un neurologue.
Alors, on fait de notre mieux avec les ressources que le système de santé nous offre. Je pense qu'on essaye tous de prendre ce temps, même si voilà, le temps n'est pas extensible et que ça peut prendre sur d'autres activités, d'autres choses. Mais on est obligé. Et puis là, je délivre brut tout ce qu'on doit dire, mais en réalité, il y a quand même un peu de psychologie là-dedans. Il y a le temps juste où on reçoit le patient, on va déjà se présenter, etc., pour que les choses soient bien claires. Le temps qu'on prend aussi pour échanger avec lui ou avec le parent, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez compris, parce qu'en fait, on doit se mettre au niveau du patient, et ça, c'est très important. On doit partir de ce que lui a compris, on doit surtout adapter notre discours à son niveau de compréhension, à son état émotionnel aussi. Donc, avant d'aller balancer le diagnostic et toute la liste qu'on vient de faire, il faut quand même qu'on ait réussi à appréhender où est-ce que le patient il en est, à quoi il s'attend, dans quel état émotionnel il est, comment je dois moduler tout ça pour faire passer toutes les informations que j'ai à faire passer, parce que il faut qu'elles passent et que le patient il sorte avec son traitement et tous les enjeux dont on a parlé. Il faut quand même qu'il y ait une part d'espoir dans tout ça, parce que déjà il y a une part d'espoir quand on fait un diagnostic d'épilepsie, parce qu'il y a des ressources thérapeutiques, enfin voilà, elle existe, cette part d'espoir. Il faut savoir suffisamment la souligner pour que les choses soient équilibrées et que le patient il soit dans les meilleures conditions possibles pour intégrer un maximum des informations qu'on a à lui donner. Et puis en plus, on va énumérer toutes ces informations, et il y a aussi un petit peu un temps après de gestion. On va répondre à ces questions, on va parfois avoir un patient qui va avoir des réactions inattendues, soit de panique, de déni, des patients qui vont rester complètement impassibles, qui vont pas poser de questions. Ça, il faut du temps pour pouvoir gérer ça. Et ensuite, clôturer un petit peu cette consultation d'annonce, il faut qu'on ait pu reprendre les informations clés, consigne de vie, traitement, c'est surtout ça, le plan d'action un petit peu, quand est-ce qu'on revient, qui est-ce qu'il peut appeler, etc. Et qu'on ait une idée de ce que vraiment le patient a compris quand il quitte le bureau. Donc c'est très, très dense et il n'y a pas de secret, quoi. Il faut du temps pour faire ça.
On comprend bien que c'est un rendez-vous qui est extrêmement important, ce rendez-vous d'annonce de diagnostic. Ce que je vous propose, on a pris beaucoup de choses, en quelques minutes, c'est peut-être qu'on fasse retomber un petit peu tout ça pour l'intégrer, et qu'après on puisse discuter avec nos témoins pour que vous nous racontiez, Tiffen et Anaïs, comment vous avez vécu cette annonce diagnostic. Je vous propose peut-être juste avant qu'on écoute un titre, c'est Zoe Weiss, Control sur RCN.
Early in the morning, I still get a little bit nervous, fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Urge when I remember, and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express how thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'd understand. Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets caught. 'Cause even though I'm
wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath. Spinning out in space, pressing up my chest.
Sur RCN, et puis c'est tout.
On était en train de dire hors antenne que cette émission passe horriblement vite. On parle ce matin de l'annonce diagnostique, c'est un sujet qui est très important. Anaïs Remidroé, donc je rappelle, vous êtes déléguée départementale Marne Épilepsie France, et vous êtes maman d'une enfant qui souffre d'épilepsie. J'ai envie d'avoir un petit peu votre retour sur ce premier rendez-vous que vous avez vécu. On l'a entendu il y a quelques minutes avec le docteur Justine Miguel. Il y a énormément de choses qui sont dites ou qui doivent être dites lors de ce premier rendez-vous. Comment on le vit quand on est parent?
Alors effectivement, nous, le diagnostic de ma fille a été fait à ses 5 ans et demi. On a eu la chance dans cette malchance que le diagnostic soit fait 12 heures après la crise qui nous a amenés aux urgences. Mmh. Donc finalement, 12 heures où on a été très accompagnés, en premier lieu dans un petit hôpital à côté de là où on habitait, puis très rapidement, quand ils ont vu qu'elle refaisait des crises, ils nous ont dirigés vers l'hôpital pour enfants de Reims, où là, voilà, il y a eu toute une batterie d'examens qui nous ont conduits voilà, en début d'après-midi à avoir ce mot, cette sanction de la vie qui tombe. Mmh. Il y a eu un état de sidération assez court, mais quand même là, c'est-à-dire ce couperet qui tombe, et on a très vite compris avec le papa que la vie ne serait plus comme avant, parce que voilà, déjà c'était une maladie que l'on ne connaissait pas, donc on entrait dans un monde où voilà, on avait des représentations assez floues de ce qu'était l'épilepsie. Donc on a été très bien guidés, mais on a très vite compris qu'on allait perdre en spontanéité dans notre quotidien, c'est-à-dire que tout allait être régulé par la maladie. En plus, nous, très vite, ça a été une épilepsie qui a été décrite comme sévère, comme rare, en plus pharmacorésistante, c'est-à-dire qu'on a essayé... après, dans le mois qui ont suivi, plusieurs molécules qui se sont avérées inefficaces. Mmh. Voilà, donc on a été très 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 bien suivis dès le début, une équipe pluridisciplinaire, hein, psychologue, neuropsychologue, enfin voilà. Donc on a cette chance aussi, moi je le vois au travers des patients que j'ai par téléphone, des fois d'une errance de plusieurs mois, plusieurs années. C'est vrai que nous, très vite, on a été accompagnés, mais c'est vrai que le fait d'avoir été deux. Voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de se dire, allez, c'est une équipe qui se crée, une équipe déjà de parents avec l'enfant, L'enfant, voilà, il faut lui parler aussi avec des mots pour qu'il puisse le comprendre. Alors,
bien sûr,
ouais. Nous, on a la chance d'avoir une petite fille qui était assez pertinente, etc. Enfin, voilà, c'est développé. Donc, très vite, elle a posé des questions elle-même à son neuropédiatre qui lui a répondu avec toute la bienveillance qu'elle pouvait et la pédagogie, mais avec toute la franchise aussi. Et ça, je reviens à la première question au micro-trottoir. Et c'est ma vie, là. Il fallait de la franchise. Voilà. Mmh. Et même ma fille à 5 ans et demi, un enfant, attend de la franchise. Et ça, elle l'a eu. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un bouleversement. Et encore une fois, c'est quand on sort, qu'on est sur le parking, eh bien, voilà, c'est cette étiquette de parents d'enfants malades qu'on a. Et c'est lourd. C'est lourd et c'est aussi c'est comment on l'annonce aux autres, à la famille. Voilà, les premiers coups de téléphone, comment on va l'annoncer à l'école. Est-ce qu'elle va pouvoir faire un retour à l'école? Enfin, bref, c'est un chamboulement qui... Voilà, on n'est pas prêt. Le médecin qui a fait le diagnostic nous prépare, mais voilà, est aussi conscient que ça va être un petit peu un nouveau monde. Moi, j'ai souvent comparé ce diagnostic à une tempête où on était sur un petit canot sans pagaie, sans rien, sans rame. Et en gros, l'équipe médicale, c'est un peu le phare, quoi. C'est-à-dire, on le suit, il y a cette confiance qui s'installe. Et puis, voilà, on attend, et puis on va au rythme de la médecine, des examens, parce que juste après, voilà, on nous a demandé de faire un IRM pour enlever tout risque de tumeur. Enfin, voilà, donc, mais il a fallu attendre 4 semaines. Donc, c'est 4 semaines où on se projette sans se projeter sur cette IRM, sur ce qu'il pourrait dire. Enfin, voilà, c'est assez déroutant. Mmh. Et voilà, et je pense qu'un accompagnement psychologique, même pour des parents, c'est important.
Ouais.
Il faut que ce soit pour le patient, pour les aidants, parents ou autres. C'est important d'être entouré. Nous, on a eu la chance à l'hôpital américain d'avoir une infirmière spécialisée en épilepsie rare qui, on avait un petit peu, c'était un peu la hotline, quoi. C'est-à-dire, quand le neuropédiatre ne pouvait pas répondre parce que, le flot de consultations par jour est démentiel, on avait cette ressource-là, cette personne ressource qui connaissait les épilepsies, qui connaissait l'épilepsie de notre fille, qui pouvait nous répondre un peu du tac au tac dans la journée sur un symptôme, sur un médicament qu'on essayait, puis on trouvait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas très bien, ou toute question, voilà.
C'est important, on l'entendait d'ailleurs tout à l'heure dans le micro-trottoir, hein, cette notion d'avoir finalement un contact médical. C'est la notion d'IPA, Justine Miguel, ça. C'est, peut-être nous préciser ce que nous dit Anaïs à l'instant, le fait d'avoir une infirmière qui connaît, qui peut répondre aux questions.
Oui, effectivement, ce sont des professions qui sont en plein développement et qui permettent quelque part de pouvoir améliorer la disponibilité parce qu'on sait que le neurologue et le neuropédiatre n'est pas toujours même souvent la personne la moins disponible.
Ouais.
Et la formation d'IPA spécialisée dans l'épilepsie, ça constitue une vraie ressource pour le patient, un interlocuteur beaucoup plus disponible et qui peut faire le relais facilement avec le thérapeute référent. Donc,
Anaïs, j'avais cette question aussi. Vous nous parlez de la sortie de l'hôpital et vous dites d'un seul coup, on devient parent d'un enfant malade. Mais d'un seul coup, on se retrouve aussi avec des nouvelles responsabilités. Votre petite fille a 5 ans quand le diagnostic est posé. Et on l'a entendu dans le rendez-vous d'annonce de diagnostic, il y a tellement de choses qui sont dites. Alors vous nous disiez, c'est bien, on était deux aussi, c'est important. Comment ça se passe, la sortie de l'hôpital? Comment on vit ce moment? Est-ce qu'on a l'impression de porter... racontez-nous comment ça s'est passé. Parce que vous quittez l'accompagnement juste pour finir ma question, mais c'est vrai que vous aviez un bon accompagnement à l'hôpital et d'un coup vous êtes seul en fait.
C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ce cocon que représente l'hôpital. Il faut sortir, quoi. Il y a un moment où il faut rentrer chez soi. Et là, c'est vrai que rapidement, j'ai envie de dire, rapidement, le cerveau se met un peu en ordre de bataille, quoi. Ça devient un peu militaire. C'est-à-dire, bon, alors, ok, on nous a dit ça. Les bains, bon, comment on va faire? On va se relayer. Puis la nuit, on va dormir avec elle. Enfin, voilà. C'était comme si on avait lancé un protocole avec tous les conseils tout frais qui venaient de nous être donnés. Mais en même temps, ça a un peu retardé un petit peu cette étape du deuil, c'est-à-dire que le côté militaire que le cerveau a imposé, c'est-à-dire voilà, bon bah là on va noter. Alors on va hop, on sort un calendrier et puis on note chaque crise. Nous on nous a demandé aussi de les filmer puisque ça aide énormément le personnel médical. Donc il faut penser à sortir le téléphone, le mettre en route. Enfin, donc c'était finalement assez robotisé. Et puis quelques jours, quelques semaines après, arrive le côté un peu plus, comment dire, c'est là où on va, la pression va relâcher et on va prendre conscience de là où on rentre, parce qu'il va falloir rapidement aussi en parler à l'école, en parler, faire éventuellement un dossier avec la maison départementale des personnes handicapées. Enfin, il y a quand même plein de choses qui se mettent en route et en fait, ça laisse pas trop la place aux sentiments. Enfin, nous, c'est ce qu'on a ressenti. C'est qu'il fallait être productif, efficace, parce qu'on avait quand même la vie de notre fille entre nos mains. Et du fait que ça soit une épilepsie grave et rare et très sévère, ben, on n'avait pas le temps de nous reposer, de se reposer. Donc, et on n'avait pas le temps de se poser. Au-delà de se reposer, c'est de se poser et de dire, bon, comment tu le vis, toi, enfin, voilà, avec le papa. Enfin, on n'a pas eu trop ce temps-là. Mais voilà. Mais c'est brutal.
Vous parlez de l'aspect psychologique qui était important, mais on comprend bien qu'en fait, on n'a même pas tellement le temps de le prendre en considération, du moins au début.
Exactement.
Je me tourne vers vous, Tiffaine. Vous, c'est vous hein, qui êtes diagnostiquée épileptique. Ça s'est passé comment pour vous, cette annonce? Racontez-nous un petit peu votre parcours.
Ouais, ça remonte il y a longtemps. J'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai été diagnostiquée, j'avais 9 ans. Donc d'accord. Pareil, j'étais accompagnée de mes parents et de mon frère. Et bon, ils ont, je pense, tout dit. Moi, je m'en souviens pas trop, vraiment, je vous l'avoue. Mais moi, quand je suis sortie, j'ai regardé mes parents et j'ai dit, bon, ben, je meurs quand? Parce qu'en fait, concrètement, j'avais pas compris grand-chose. Et pour moi, une maladie, c'était la mort. C'est un peu fou, hein, mais c'est ce que ça représentait. Donc là, on a dû reprendre les choses, m'expliquer clairement ce que c'était et ce qu'il y avait à faire. Donc c'est là où on dit aussi de se mettre au niveau de compréhension et de capacité de l'enfant ou de la personne adulte, hein, parce qu'on sait qu'il y a des déficiences intellectuelles qui peuvent se mettre. Donc il faut vraiment
Il y a l'accélération, si je veux me permettre. Il y a l'accélération aussi qui fait qu'on peut ne pas tout comprendre comme d'habitude.
C'est ça. Donc voilà, il faut se mettre au niveau, vraiment, et... Bon, le jargon médical, il est ce qu'il est, mais le mettre de côté, je pense, à ce moment-là, sortir épilepsie, myoclonique, juvénile, infantile, enfin tout ce qu'on veut, c'est bien beau, mais on le comprend pas à ce moment-là. Enfin, moi, je me rappelle, pareil, on m'a diagnostiqué une épilepsie rare, complexe, pharmacorésistante, enfin tout ce que vous voulez, tous les termes, avec un nom. Franchement, je peux même pas vous le dire à l'heure actuelle, le nom de mon épilepsie, parce que je l'ai toujours pas retenu. Mais voilà, donc voilà, il faut faire des choses simples, au pratico-pratique. Quelle incidence ça va avoir sur notre quotidien et aussi sur le quotidien de mes proches. Oui, il faut informer parce que moi, mes parents ont continué à travailler parce qu'on leur a dit il faut vivre, il faut avoir une vie normale, la pathologie est là, la crise sera là, les crises seront là, on ne sait pas quand seront la prochaine, il faut vivre. Parce que si vous ne vivez plus, c'est pas possible. Donc on a aussi informé nos proches que mes parents continuent à travailler, s'il y a une crise, pas forcément aller systématiquement avec les pompiers à l'hôpital parce que voilà, c'est d'autres choses, ça il faut le dire, et du coup informer nos proches que il y a de l'épilepsie et est-ce que tu peux aller la chercher s'il y a une crise à l'école. Donc c'est tout finalement presque une entraide, une solidarité dans l'entourage qui se met en place.
Oui, vous rejoignez ce que disait Anaïs il y a quelques instants, l'importance de le dire aussi aux autres qui sont autour de nous.
Alors c'est mitigé parce que dans l'emploi par exemple, c'est quelque chose on voit qui nous porte préjudice, ou même dans la scolarité, des fois c'est difficile de l'aborder, de le dire, mais je pense que oui, nos personnes proches, nos amis, notre famille, il faut le dire parce que ça peut être aussi des ressources pour les parents, les aidants quand il y a un épuisement, quand il y a besoin, s'ils veulent sortir au restaurant, profiter, il faut le faire, parce que c'est aussi le moment pour eux de couper, et comme disait Anaïs aussi indirectement de se reposer. Donc il le faut. Après, c'est vrai que voilà, le diagnostic, on en a beaucoup parlé, c'est complexe, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à créer une communauté de professionnels et de non-professionnels. Nous, association, on est aussi là pour reprendre des choses, pour reprendre les risques de l'épilepsie sur le quotidien, que ça soit sur les risques domestiques, la conduite, la grossesse, l'emploi. On est aussi là pour ça. Nos bénévoles, on les forme à l'écoute. De par le partage d'expérience, ils ont aussi une valise, un bagage de connaissances sur l'épilepsie. Et donc, je pense que c'est un travail vraiment pluriprofessionnel. À ça, on rajoute aussi l'éducation thérapeutique aux patients, que pour moi, il faut proposer dans quasiment tous les hôpitaux. L'épilepsie est une pathologie chronique où l'éducation thérapeutique, c'est là où on peut faire adhérer le patient à prendre son traitement, à la pathologie, à qu'il l'accepte, à qu'il comprenne les conséquences. Pour moi, ça passe par toutes ces instances-là. Donc, indirectement, est-ce que dans toutes les salles d'attente, il ne faudrait pas des flyers d'éducation thérapeutique, des équipes relais qui existent, parce qu'on les, malheureusement, on les connaît trop tard. Hein, les situations sont des fois très dramatiques et on les découvre. Pareil, des associations, nos coordonnées, ou même les professionnels, dire voilà tout ce qui existe. Un peu une valise, on ressort avec une petite valisette de qu'est-ce que vous pouvez avoir en votre possession.
C'est important hein, ce que dit Tiffaine, Justine, vous qui êtes neuropédiatre, cette idée aussi d'amener vers d'autres professionnels ou l'associatif. On a entendu tout à l'heure aussi quelqu'un qui disait d'avoir des groupes de parole, des groupes d'entraide. C'est quelque chose que vous mettez en place aussi de votre côté, cet accompagnement vers d'autres structures.
C'est essentiel parce que si on veut pas laisser ressortir le patient tout seul, enfin on peut pas laisser ressortir le patient tout seul sans moyens pour affronter tout ce qu'il y a à affronter au début d'une épilepsie quoi. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on glisse plutôt en fin de consultation, c'est pas le truc qu'on va dire en premier, et je pense que ça fait partie des choses qui sont pas forcément entendues d'ailleurs au moment où le patient va quitter le bureau et qui sont essentielles à reprendre dans un second temps pour pas laisser le patient tout seul, le patient, sa famille, les aidants, enfin voilà, le patient dans sa globalité, tout seul, sans ressources. Et évidemment que le neurologue n'est pas la seule ressource et il y a plein de choses qui sont essentielles à puiser partout ailleurs.
Et puis pour revenir en un mot, parce qu'on a déjà la fin de cette émission, mais Tiffaine nous dit de pouvoir vulgariser un peu le vocabulaire médical, c'est important. L'aspect psychologique, on voit bien qu'il est à la fois extrêmement important, même s'il est peut-être difficile à créer au moment de l'annonce, quoi, hein, ce lien psychologique.
C'est pas un exercice facile, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Et ne pas se cacher derrière du jargon médical, c'est la base. Je pense que, alors en pédiatrie encore plus, mais en fait tout venant, le but c'est que le patient il ait compris, donc il faut parler dans un langage qu'il comprend.
On aurait aimé que cette émission dure beaucoup plus longtemps, on aurait tellement de choses à se raconter encore. Malheureusement c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on en reparlera, Céline. Peut-être quelques ressources rapides qu'on mettra aussi en lien sur l'émission, sur la vidéo YouTube.
Demain, oui, on peut citer un webinaire d'Épilepsie France autour de diagnostic d'épilepsie et parcours de soins. Que faudrait-il améliorer sur l'annonce du diagnostic? Et peut-être quelque chose de plus spécifique aussi, les dispositifs, destinés aux parents et aux aidants familiaux. Et après l'annonce du handicap de mon enfant, c'est les Bobos à la ferme qui ont édité ça en 2019. Vous retrouverez toutes les ressources sur la vidéo YouTube et RCN. Et moi, je conclurai en vous remerciant toutes. Et on voit bien comment la communauté de professionnels dont tu parlais, Tiffaine, elle peut aussi se déployer et offrir un soutien, un appui aux familles et aux personnes avec épilepsie, puisque je crois que c'est l'affaire de tous.
Et voilà, on a bien noté ce besoin de créer une alliance thérapeutique. Ça se fait effectivement dans la confiance. Merci beaucoup, Justine Miguel. Je rappelle que vous êtes neuropédiatre au CHR d'Épinal et au COCE, Centre d'Observation et de Cure pour Enfants Épileptiques de l'OHS Lorraine. Merci Anaïs Remidroé d'avoir participé à cette émission. Vous êtes délégué départemental à Marne Épilepsie France. Et merci Tiffaine Liguti, vous délégué départemental Alsace et Lorraine et vice-présidente nationale pour Épilepsie France. Merci de la confiance que vous nous accordez en nous témoignant de ce que vous avez vécu. On vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouveau rendez-vous d'Épices et tout.